Alors, on prend donc la parabole du semeur. À chaque point, on va changer de personne. Donc, toute ponctuation qui coupe une phrase en deux. Alors, c'est la traduction liturgique. Hein. Une traduction n'est jamais mauvaise, c'est une traduction, point. Le seul texte de référence, c'est le texte original. Il est en grec pour le Nouveau Testament, il est en hébreu pour l'Ancien Testament. Personne n'est dispensé d'apprendre l'hébreu et le grec. À commencer par vous. Vous devez apprendre l'hébreu et le grec. Ce sont les langues dans lesquelles la parole de Dieu s'est donnée. Donc, de toute manière, nous devons tous apprendre l'hébreu et le grec. Vous le savez, ça fait longtemps que vous essayez de vous y mettre, vous n'y arrivez pas, mais ça va venir, quoi. Hein ? On ne peut pas faire l'impasse de l'hébreu et du grec. C'est pas parce que les choses sont inaccessibles qu'il faut y renoncer. Il faut aspirer à la connaissance de l'hébreu, aspirer à la connaissance du grec. C'est la petite Thérèse qui disait ça. Ah, si j'avais pu apprendre l'hébreu et le grec. Ces langues dans lesquelles la parole de Dieu a été donnée à l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a une saveur du texte original, il y a une saveur d'être capable d'aller voir le texte original pour voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Ça exige une connaissance extrêmement basique de la langue originale, parce que nous avons maintenant des outils informatiques qui nous permettent d'accéder aux langues originales. Il suffit d'être capable de lire l'alphabet. Le reste, il suffit d'une bonne souris qui passe sur le texte et qui nous donne la traduction de chaque mot, etc. Ça devient très très facile. Je vous dis ça parce que ça fait partie du relief du texte. Derrière tout texte de la parole de Dieu, il y a le texte original. On dit souvent que la traduction, cette traduction est mauvaise, il faudrait traduire comme ça, il faudrait traduire comme ça. Alors, il est vrai que la traduction occulte le texte original, mais dans la traduction, le texte original se laisse transparaître, se laisse voir inconsciemment. Je n'ai pas besoin d'en avoir conscience. Ça reste toujours la traduction d'un texte. Alors on va vous dire en plus, Jésus quand il parlait pas en grec, il parlait en araméen. Mais tout le Nouveau Testament est en grec. Il n'est pas en araméen, il n'est pas en hébreu. Et cette langue a une importance aussi. Donc aucune traduction n'est mauvaise. Une traduction ne peut être qu'une traduction inspirée. Déjà, elle jouit de l'inspiration du texte qui est derrière. Elle jouit de l'inspiration de la personne qui a traduit le texte. Puisque aucun traducteur ne peut traduire sans l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est sûr, c'est un certain filtre, la traduction, mais il y a un vrai accès au texte original. Dans la traduction, c'est toujours la parole de Dieu qui est là. De toute manière, on va voir que la parole de Dieu n'est pas un texte magique. Elle a besoin d'une traduction, de toute façon. C'est ce qui fait sa différence avec un texte magique. On va beaucoup parler de ça parce que je crois que c'est très important. Vous voyez, c'est pas simplement une sorte d'élixir que l'on respire ou que l'on goûte, un produit qui a besoin d'être travaillé et qui a besoin de se heurter à une compréhension, à un esprit qui va la comprendre. Cette traduction que nous avons sous les yeux, qui est la traduction liturgique, donc si vous voulez, il y a une traduction officielle pour la liturgie de l'Église dans chaque pays, et donc cette traduction a été faite dans l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour ça que peu importe la langue, l'italien dit traduttore, traditore, traducteur, traître. Toute traduction, de toute manière, est une trahison de son texte original. Voilà. Il faut se le dire, mais le Saint-Esprit passe à travers la traduction et c'est toujours la parole de Dieu qui se donne à moi de manière immédiate. En passant par la médiation des hommes et par la médiation du traducteur. Mais si je veux goûter, bien sûr, la saveur profonde de la parole de Dieu, je n'ai pas de meilleur support que celui du texte original. Et qui, je vous le répète, n'est pas si inaccessible que cela. Un petit peu d'effort, si j'ai un petit peu de temps, pour accéder à la lecture de l'hébreu ou à la lecture du grec, n'est pas une mauvaise chose. Et n'est pas impossible. Pas en dehors de notre portée. Vous savez, le Saint-Esprit nous rend très intelligents quand nous décidons de faire des bonnes choses comme ça, comme apprendre une langue. À la communauté, nous avons toujours le Shabbat en hébreu. Il n'y en a pas un qui parle hébreu. Mais nous sommes façonnés par cette célébration du Shabbat en hébreu toutes les semaines. La tradition de notre communauté, à force de célébrer le Shabbat en hébreu toutes les semaines, et Dieu sait que parfois il a fallu un petit peu résister pour garder cet usage, nous a façonnés, et puis du coup, on connaît peut-être pas tout l'hébreu, on n'est peut-être même pas capable de le lire, mais on en connaît les sonorités, on connaît les sonorités des mots, etc. Et il y a quelque chose qui passe à travers cette langue particulièrement importante qu'est l'hébreu. C'est comme ça aussi que ça marche dans le peuple juif. La langue hébraïque reste la langue de référence, mais combien de juifs sont absolument incapables de parler.